Bonjour. Récemment, nous avons déploré le décès de Guy Barrès, et cela remplit nos cœurs de tristesse. Et nous nous sommes posé la question, lors de cette journée de cérémonie, de sépulture, où est-ce qu'il est Guy maintenant? Est-ce qu'il est dans cette boîte? Est-ce qu'il est auprès du Seigneur? Où est-il? Nous savons que Guy ressuscitera lors du retour du Seigneur. Oui, mais en attendant, c'est ce que je vous propose d'étudier maintenant, ce que nous pouvons appeler l'état intermédiaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment de notre mort et le moment de la résurrection. Le mot « état intermédiaire » n'est pas dans la Bible, mais il faut bien appeler ça un peu d'une certaine façon. Et je vous invite, pour illustrer cela, à lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 16, et nous lirons jusqu'au chapitre 5, verset 8. Même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Chapitre 5. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, l'apôtre Paul parle de son corps, hein. Nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir pleinement notre domicile céleste. Puisque nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Parler de ce qui vient après la mort. Ce n'est pas simplement une question de curiosité. Je crois que ça répond à l'angoisse de tous les hommes, de toutes les femmes. Cela touche un point névralgique de nos préoccupations. Et on pourrait s'attendre à ce que la Bible parle longuement de ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est le sujet principal de beaucoup de religions. On trouve des livres des morts chez les Égyptiens, chez les Mayas. On parle beaucoup dans le bouddhisme de ce qui se passe ensuite et des réincarnations et de la suite. Et pourtant, la Bible en parle relativement peu. Il y a très peu de choses dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé du Sheol, le séjour des morts. Mais c'est un terme très vague qui pourrait être rendu par le terme français « la tombe ». Voilà, il est allé dans la tombe. Bon, c'est pas plus précis que ça. Et même dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un sujet dont il est beaucoup parlé. Et c'est souvent en passant, par petites touches, quand on parle d'autre chose, quelques petits mots qui nous sont donnés. Pourquoi la Bible en parle si peu? Pourquoi une telle retenue? Je vois principalement trois raisons. Parce que pour la Bible, la réalité de la mort est à prendre au sérieux. La mort reste le dernier ennemi. Et même s'il est vaincu par l'action de Jésus-Christ, ça reste l'ennemi. C'est ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Et je lisais tout à l'heure dans « À toi la gloire » un chant qui dit « Mourir, oh, c'est triompher !» Est-ce que c'est pas un peu vite dit « Mourir, c'est triompher ?» Si la Bible dessinait trop légèrement, de belles couleurs, cette suite de la vie terrestre, on en viendrait à oublier le caractère scandaleux de la mort. La mort, c'est un scandale. C'est aussi une punition, un châtiment de Dieu. Vous vous souvenez, le jardin d'Éden, si tu manges, tu mourras. Certainement, tu mourras. Alors, la réalité de la mort est à prendre au sérieux, et jamais la Bible nous dit « Non, 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 vous inquiétez pas. » C'est encore mieux après, ou du moins, l'apôtre Paul nous l'a dit tout à l'heure. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, mais on voit que pour lui, c'est tout un raisonnement, et c'est un corps malade et prisonnier et souffrant dont il parle. La deuxième raison, c'est que justement, la Bible n'est pas écrite par des hommes. Si, bien sûr, elle est écrite par des hommes. Mais elle n'est pas écrite d'abord pour répondre à nos angoisses. La Bible est écrite pour nous révéler Dieu et pour nous révéler ce que Dieu pense de nous. Elle n'est pas écrite, ce n'est pas une construction humaine qui est destinée à répondre à nos angoisses. Bien des gens pensent que les hommes ont écrit les religions pour répondre à l'angoisse de la mort. Et Hébreux 12 nous parle de ceux qui, par crainte de la mort, sont asservis au diable toute leur vie. Mais justement, la Bible n'est pas le produit de l'angoisse des hommes. C'est en quoi elle nous répondrait en large et en travers, voilà comment ça se passe. On aura un cours bien fait. La Bible est d'abord là pour nous parler de Dieu. Et puis la troisième raison, c'est que le véritable espoir, la véritable espérance des chrétiens, c'est pas la survie de l'âme, c'est la résurrection. La survie de l'âme, on en parlera, on va en parler. Ce n'est qu'un état intermédiaire. L'état final, celui que Dieu veut pour nous, c'est la résurrection. Une vie complète, une âme et un corps retrouvés. Non seulement retrouvés, mais glorifiés, parfaits. Et la résurrection, la Bible en parle beaucoup plus. Parce que ça, effectivement, c'est notre véritable espérance. Alors même si elle en parle peu, elle en parle quand même un petit peu. On va quand même dire quelques textes. Pas de grands passages, mais des petites touches à droite à gauche. En résumé, je commence par la fin, je commence par la conclusion. Les croyants en Jésus-Christ, une fois décédés, jouissent d'un état heureux, conscient avec le Christ. Une béatitude consciente avec le Christ. Déjà dans le psaume 73, au verset 23, on a ce passage. « Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. » Les croyants sont conscients, ils entrent dans un état, un tel état, immédiatement et sans leur corps. Il y a la parabole de Luc 16. Vous connaissez la parabole de Luc 16 ? Non ? Vous ne connaissez pas ? Non ? Alors on va la lire. Luc 16. C'est juste après Luc 15. Facile. Au verset 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa. Le corps couvert de plaies purulentes, il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ses flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. » À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il les avertisse pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophéties, lui répondit Abraham, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Surprenante parabole. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette parabole ? Bah tiens, je vais vous interviewer un peu. Quel est le but de cette parabole ? Oui, mais encore. Tu es encore plus pointu que ça, je crois. Ben ça, je suis pas sûr, justement.
La réalité sur Terre peut être différente de la réalité dans le ciel.
Ouais, je suis pas sûr non plus.
Les miracles,
Oui. Je crois que Jean-Pierre est sur la bonne piste. Parce qu'en fait, le point important de la parabole, c'est sa conclusion. Et quelle est la conclusion ? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Jésus explique là que dans son peuple, ceux qui n'ont été convaincus ni en lisant Moïse ni en lisant les prophètes ne seront pas plus convaincus lorsque lui-même sera revenu des morts. Et lorsqu'on leur dira, il y a un ressuscité, il y a quelqu'un qui a connu la mort et qui est revenu à la vie. Nous l'avons vu. L'apôtre Paul dira, 500 personnes à la fois ont contemplé Jésus ressuscité. Il y a eu des témoins. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui se soient convertis à ce moment-là, qui se soient tournés vers Dieu ? Vous savez quelle est la différence entre une parabole et une allégorie ? Non ? Vous ne savez pas ? Ou vous êtes timide ? Les deux, d'accord. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible, il y a très peu d'allégories. Une parabole, c'est une histoire qui va illustrer un point. Mais en prenant cette histoire, tous les points de cette histoire ne seront pas considérés comme une vérité absolue. Je vous donne un exemple, la parabole du juge inique, où Dieu est comparé à un mauvais juge qui va refuser de faire droit à une veuve. Si vous essayez de prendre cette parabole et d'appliquer point par point, vous en arrivez à dire « Ah ben Dieu est un juge inique !» C'est pas ça, justement. Toute la parabole est une histoire qui veut illustrer un point. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir ici qu'il faut prendre ce texte avec beaucoup de... Pardon ? L'allégorie, très juste. Il y en a un qui dort pas. Donc l'allégorie, c'est une histoire où chaque point a sa correspondance avec la réalité. On en a quelques exemples dans l'Ancien Testament où, par exemple, vous avez l'allégorie, je crois que c'est dans Jérémie, l'allégorie des deux sœurs qui représente Samarie et Jérusalem. Et vous avez toute une histoire où vous pouvez faire correspondre chacun des épisodes à un épisode historique qui s'est vraiment passé. Alors que dans une parabole, prenez la parabole du semeur. Parabole du semeur, si vous essayez d'appliquer ça vraiment point par point, vous irez voir un agriculteur en lui disant « Écoute, la Bible dit comment tu dois semer, tu dois en jeter dans les épines, tu dois en jeter dans les cailloux, tu dois en jeter... » Non. Voilà. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Je pense qu'il faut prendre ce texte de Luc 16 avec beaucoup de précautions en ce qui concerne la vie après la mort. Parce que aucun autre texte dans la Bible ne nous parle de deux royaumes qui sont éloignés l'un de l'autre par un grand précipice, mais où on peut se parler de l'un à l'autre. Bon, je crois que c'est une histoire, et que la conclusion de cette histoire, elle n'est pas de dire « voilà comment se passe le séjour des morts, voilà comment c'est », mais la conclusion, c'est de dire « s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. » Donc, je crois qu'il faut être un peu prudent. On ne peut pas trop tirer de cette parabole, pas plus qu'on ne peut tirer de la parabole du semeur des astuces pour aller semer. Donc, on ne va pas trop s'en servir de cette histoire. Plutôt, on va regarder des textes qui ne sont pas des paraboles. Et je vous propose, puisqu'on est dans Luc, d'aller un petit peu plus loin. Luc 20, verset 38. 37, pardon. C'est Jésus qui parle. C'est une de ses joutes oratoires qu'il a avec les gens de son temps, et je pense là, ça doit être des Sadducéens. Il dit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et pour lui, ou par lui, on peut traduire aussi, tous sont vivants. C'est un présent. Tous sont vivants. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que quand Moïse appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob, à cette époque-là, sont morts depuis longtemps. Et pourtant, Jésus nous dit, si Moïse appelle Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. D'une certaine façon, vivants. Et puis, il y a le passage bien connu de la résurrection de Lazare. C'est encore un Lazare, mais ce n'est pas le même. Jean 11, vers 6. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est ce que dit Jésus. Ça, ce n'est pas une parabole, c'est une promesse. « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est une vie éternelle qu'on ne peut pas perdre. Nous l'avons lu tout à l'heure, si nous demeurons dans le corps, nous sommes loin du Seigneur. Pour se rapprocher de lui, il faut mourir. Paul le dit aussi dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er. Épître aux Philippiens, chapitre 1er, verset 20. Là aussi, Paul parle de sa mort. Et il se pose des questions. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Je suis en prison, je me sens inutile, je me sens faible, je me sens malade, je me sens délaissé. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Que je meure ? Que je sois débarrassé de ce corps ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste parce que j'ai encore du travail à faire ? C'est la question qu'il se pose. Et il dit ceci, « Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. On voit Paul, on l'imagine hésiter, mais finalement, ce n'est pas à lui que le choix va incomber, puisque ce n'est pas lui qui va prendre la décision de mourir ou de ne pas mourir. Mais on voit qu'il pèse le pour et le contre. Et il dit un peu la même chose à Timothée, la deuxième épître à Timothée au chapitre 4. Il dit « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le moment de mon départ. Le mot « départ » dans l'original, c'est le mot qui a donné en français « analyse ». Analysis, ça veut dire déliment. Quelqu'un qui est ligoté et qu'on libère. C'est comme si son corps ligotait son âme et l'empêchait de partir. Et il dit le moment où mon âme va être libérée, ce moment-là approche. Et Pierre dit un peu la même chose en employant un autre mot, quand il dit, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et le mot « départ » qu'il emploie ici, ce n'est pas le même que celui de Paul, c'est le mot « exode ». En référence à la sortie d'Égypte et à cette libération de l'esclavage. J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez vous souvenir de ces choses, en les écrivant bien sûr. Alors on va accélérer un petit peu, mais dans l'Apocalypse au chapitre 6, il est question des âmes qui sont dans le ciel, qui sont devant l'autel et qui réclament justice. Elles parlent au Seigneur et elles sont conscientes. Apocalypse 6, verset 9, on va le lire quand même. Vous êtes d'accord? Oui? Verset 9. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et leur demander compte de notre mort ? Jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. » Je ne sais pas comment on fait pour enfiler une tunique blanche sur une âme. Mais bon. Chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ils sont sous l'autel. N'imaginons pas que l'autel est posé dessus. Hein. Sous l'autel, c'est au pied de l'autel. Hein. Et ils demandent au Seigneur justice, et le Seigneur leur répond. Et puis, il y a le passage de l'Apocalypse 20. Alors, un peu difficile à interpréter, où il est question d'âmes qui vivent et qui règnent sur des trônes avec le Seigneur. Et on verra que la suite de ce passage nous dit « Le reste des morts ne vécut pas. » On le reverra tout à l'heure. On va lire un passage un peu plus simple. Hébreux 14, verset 13, écrit, c'est ce que Jean entend, écrit, heureux les morts. C'est sympathique quand même pour le souvenir que nous avons de Guy. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent, sans attendre le défunt fidèle au Seigneur qui peut jouir d'un repos bien mérité. Et puis, le dernier passage que je citerai à ce propos, c'est la lapidation d'Étienne. Étienne lapidé, acte 7, verset 59. Ah oui. Excusez la faute de frappe. Ça fait rien si je corrige pas tout de suite. C'est bien. Qui suivent beaucoup, hein, finalement. Donc, la lapidation d'Étienne, acte 7, 59. Le dernier mot d'Étienne en vie sur la terre. Étienne priait et disait... Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de passages finalement qui parle de cet état intermédiaire, même s'il n'y a pas de cours bien structurés, même s'ils sont un peu parcellaires. Alors, juste deux petits points. L'immédiateté, heureux dès à présent. On pourrait citer aussi le brigand sur la croix, la réponse. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, lui dit Jésus. L'immédiateté exclut l'idée du purgatoire. La Bible ne parle pas de purgatoire. Ce lieu, on le trouve dans le catéchisme catholique, mais pas dans la Bible. Et dans le catéchisme catholique, c'est un lieu de purification où se trouvent des gens qui seront finalement sauvés. Mais ils sont dans un milieu de souffrance et de purification pour pouvoir un jour entrer dans le paradis. Cette conception n'est pas dans la Bible et elle nie la gratuité du salut. Les hommes que nous sommes ont tant de peine à accepter l'idée que c'est le Seigneur qui a tout payé pour que nous n'ayons rien à payer nous-mêmes. Il n'est pas question de purification après notre mort. La purification, la sanctification, nous devons la vivre avant, avec l'aide du Saint-Esprit. Et le deuxième point, c'est sans un corps, comment peut-on vivre sans corps? Ça peut sembler bizarre, cette existence sans corps. Comme je vous disais tout à l'heure, comment peut-on enfiler une tunique quand on n'a pas de corps? Mais même si c'est une réalité un peu mystérieuse, c'est une réalité qui n'est que temporaire. Et c'est ce que nous avons lu. Vous vous rappelez, le premier texte, c'était un peu compliqué. Nous ne voulons pas nous dévêtir, mais nous revêtir si nous sommes trouvés. Ben oui, que dit Paul? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie? Mais j'ai envie d'être complet avec un corps. Bon, peut-être que transitoirement nous serons dévêtus, c'est-à-dire sans corps, dans sa façon de l'imager, et nous vivrons, nous existerons ce temps, cette réalité-là, mais notre désir le plus profond, c'est bien d'être trouvé avec un corps et un corps parfait, et c'est la résurrection. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le projet final de Dieu, son projet parfait, ce n'est pas la survie de l'âme, c'est la résurrection de l'être tout entier. On arrive là, hein? Ça se tire. Pour les incroyants, qu'est-il dit? Il y a beaucoup moins de passages, et cela se comprend. Il semble exister un état un peu symétrique. De même que les croyants vivent un avant-goût de leur état final, bienheureux, de même, les incroyants semblent déjà goûter l'amertume de leur état final. Il semble qu'il y a là comme une anticipation du jugement, une anticipation vue de la préscience du Seigneur qui, déjà avant même le jugement, décide du lieu de séjour des âmes. C'est un peu comme la préventive. La prison préventive dans notre pays. Hein? Quand un juge n'a pas encore jugé, on est encore au stade de l'instruction, mais que très probablement la personne est coupable, on la met en prison avant le jugement. Sauf que notre juge à nous, il ne se trompe pas. Et il ne met pas des innocents en prison. Alors les textes qu'on peut citer, bon, on retombe sur notre parabole de Luc 16 avec les petites précautions dont je parlais tout à l'heure. Mais je vous propose surtout de lire la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Et le mot « réservé » ici pourrait très bien se traduire « emprisonné ». « Vous pourrez méditer, ça c'est les devoirs à la maison, ils ne seront pas notés. Hein. Vous pourrez méditer, mais on ne va pas approfondir parce que c'est un texte qui a fait couler beaucoup d'encre. Le texte, la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 19, où il est question des esprits en prison du temps de Noé, où Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Alors beaucoup de... Ça mériterait qu'un jour on l'étudie que lui. Mais ce qui est intéressant là, c'est l'idée des esprits en prison qui parlent des gens de l'époque de Noé qui s'étaient rebellés contre Noé et contre quand Noé construisait son arche et qui n'avaient pas accepté la parole de Noé. Probablement Noé devait justifier la construction de l'arche en disant ben vous êtes nous sommes des gens méchants et le déluge va venir. Très probablement on s'est moqué de lui. Imaginez ce qu'on dirait de vous si vous mettez à construire un grand bateau au sommet d'une colline loin de la mer à une époque où il n'y a pas de grue et pas de moyen de le transporter ailleurs. On dira celui-là. Et puis le dernier passage que je citerai, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Apocalypse 20, verset 5. Le reste des morts, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas choisi de suivre Jésus, même dans la persécution, le reste des morts ne vécut pas. Cette forme d'existence des esprits en prison n'est pas vraiment une forme de vie, comme elle peut être pour l'âme des croyants. Mais comme vous voyez, c'est assez peu comme élément. Alors nous allons conclure. Même si c'est assez brumeux, il existe donc bien pour les croyants un état de repos, de bonheur, auprès du Seigneur, conscients d'être auprès du Seigneur, débarrassés de leurs soucis, avec une promesse, leurs œuvres les suivent. Ce qui a été fait, ce qui a été construit de bon, va continuer. Dans cet état intermédiaire, il y a confirmation de la voie choisie sur la terre. Ceux qui ont vécu loin du Seigneur continueront à être éloignés du Seigneur en attendant le jugement dernier. Nulle part la Bible ne suggère qu'il existe une deuxième chance après la mort. Nulle part elle ne suggère que nos prières pour les défunts pourraient changer quelque chose à la destinée d'un défunt. D'où la solennité des choix qui sont faits sur la terre. Cette terre, cette vie, qui n'est finalement qu'un passage, un temps de vie qui nous est donné et qui détermine notre destinée après la mort, que ce soit dans l'état intermédiaire ou que ce soit dans l'éternité avec un corps retrouvé. Et pour Guy, alors, puisque nous avions commencé avec Guy Barrès, pour Guy, qu'est-ce que nous pouvons dire ? Il se repose. Il se repose près du Seigneur et ses œuvres suivent. Pour ceux qui connaissaient un petit peu Guy, les œuvres qu'il a pu faire, du moins pendant que nous l'avons connu ici à Villefranche, c'est tant de bonté, d'accueil, de patience, dans des temps de personnes âgées, de personnes fatiguées, de personnes isolées ont pu bénéficier. Ses œuvres ont montré sa foi et ça a été un témoignage pour beaucoup de gens. Ses œuvres maintenant, elles continuent à faire leur effet dans la pensée, dans le souvenir de tous ceux qui les ont constatées, qui en ont bénéficié. Mais maintenant, lui, il est heureux auprès du Seigneur, en attendant que les croyants, que tous les croyants, soient tous réunis. Voilà, je vous remercie.